Profitez d'une retraite paisible dès votre entrée dans la vie active avec Suno Assurance qui vous accompagne où que vous soyez au Cameroun et dans ses 14 pays de présence. Suivez Priorité Santé avec Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Deux êtres qui s'aiment et décident de devenir parents. Et lorsque le bébé est là, le couple conjugal devient couple parental. Aventure, émotion, expérience, mais pour certains, épreuve lorsque l'enfant occupe toute la place, l'essentiel du temps et de l'attention. Ce bébé qui peut combler, ravir et faire passer au second plan l'âme sœur qui attire moins les regards, qui attire moins tout simplement. Et très concrètement, nuit blanche, allaitement ou biberon et suite de couche ne riment pas forcément avec séduction, sérénité et disponibilité. Des habitudes bouleversées, des besoins différents, un équilibre à redéfinir. Alors pour elle, pour lui, pour eux, apparaît alors ce qui peut s'apparenter à un défi du quotidien. Une fois devenus parents, savoir rester amant, se préserver, se plaire, rester attentif l'un à l'autre, sans pour autant considérer que rien n'a changé. Autant de sujets que l'on va aborder aujourd'hui dans Priorité Santé, avec comme préoccupation, bien sûr, répondre à toutes vos questions. Alors appelez-nous au 33 1 84 22 75 75. Être parent est toujours amoureux, notre sujet du jour dans Priorité Santé. Pour répondre à ces questions, on vous retrouve en direct d'Aix-en-Provence. Docteur Fabienne Kremer, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin généraliste, psychanalyste, l'auteur de « Je prends soin de mon couple » publié aux Presses universitaires de France. Et nous remercions France Bleu Provence qui vous accueille dans leur studio. Tout à l'heure, on va retrouver en ligne de Sénégal, autre regard, celui de Kaira Thiam, psychologue, psychothérapeute à Dakar. Et en fin d'émission, alimentation et santé, chronique nutrition de Stéphane Besançon, nutritionniste, directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako, au Mali.
Priorité santé sur RFI.
Docteur Fabienne Kremer, on va parler de ce que connaissent, de ce que rencontrent pratiquement tous les couples une fois devenus parents. Et est-ce que justement, vous, d'après votre expérience de thérapeute, se poser des questions, voir qu'il y a certains problèmes au sein de son couple lorsque l'enfant paraît, c'est finalement quelque chose d'assez banal, fréquent, voire systématique?
Je dirais que c'est assez systématique, c'est-à-dire quand les gens viennent en consultation, qu'ils ont un problème de couple, si on veut remonter au début du problème, très souvent on tombe à la naissance du premier enfant. Je crois que c'est le premier tsunami, vraiment, le premier moment où ça secoue énormément dans un couple, c'est la survenue d'un enfant, parce que c'est une aventure totale. On peut s'y préparer, on peut avoir été conseillé, on peut essayer de mettre en place des choses, en réalité on va se laisser porter par cette aventure merveilleuse, comme vous le disiez dans l'introduction, mais aussi extrêmement complexe pour le couple, pour le jeune couple. Et vous disiez en introduction que presque tous les couples, et ben justement, on commence à voir apparaître, en tout cas en France, un recul de la natalité, c'est-à-dire que les couples commencent à avoir peur de faire des enfants.
Pour abîmer cette relation.
Oui, ils ont peur. Vous savez, j'ai lu quelque part, et je suis désolée de ne pas en avoir noté la référence, mais je l'ai lu, une étude assez sérieuse signifie qu'en France, en 2016, 50% des enfants de 1 an ont fêté leur anniversaire avec des parents déjà séparés. C'est dire combien c'est difficile de surmonter cette première épreuve.
Est-ce que c'est un motif de consultation fréquent? C'est-à-dire que quand une femme ou un homme vient vous voir, il parle de ses problèmes, est-ce que la survenue de cet enfant est citée dès le départ ou il faut que vous alliez fouiller, aller rechercher un petit peu pour que finalement on comprenne que c'est peut-être là qu'il y a eu bouleversement?
Ça dépend. De temps en temps, c'est extrêmement clair quand la naissance du premier enfant est vraiment dans le temps assez proche de la crise. Mais de temps en temps, en effet, il faut aller rechercher. Rechercher ce moment de disjonction où, en fin de compte, après la naissance de l'enfant, le couple n'a pas réussi à recréer sa bulle, son intimité, et il y a eu un avant et un après. Et d'ailleurs, souvent, les hommes, plus que les femmes d'ailleurs, parce que les femmes ont senti en elles une sorte d'évolution, là où les hommes essayent de retrouver la flamme d'avant. Et souvent, les hommes se plaignent de ne pas pouvoir retrouver la complicité qui existait auparavant.
Difficile, donc, bien sûr, difficile de faire des statistiques. Pour autant, est-ce qu'il y a un moment particulièrement clé, je dirais, où il y a des signaux d'alerte, au bout de combien de temps ces couples en quête de réponse, par exemple, docteur Fabienne Kremer, viennent-ils vous voir ?
En général, ils patientent, je dirais, dans la situation pendant quelques années, souvent 2-3 ans, en se disant, bon, ben voilà, on vit une période très particulière, c'est normal que ça remue, patientons, on retrouvera notre intimité après. Et puis, au bout de 2-3 ans, il arrive, alors souvent, on fait un deuxième enfant dans cette période-là, donc ça repousse encore. Et c'est comme ça que les gens peuvent arriver au bout de 10 ans avec 3 enfants, mais finalement, ils n'ont fait que faire des enfants et avoir 2-3 ans derrière, en se disant, mais on n'a rien résolu, le problème est toujours intact, ou alors, voilà, je dirais un délai de 2-3 ans par rapport à une naissance, pas obligatoirement la première, mais par rapport à une naissance.
Alors, vous l'ébauchiez tout à l'heure, docteur Fabienne Kremer, est-ce que vous constatez que les enjeux sont différents en fonction du genre, en fonction du sexe ? Est-ce qu'il y a, par exemple, des hommes qui expriment davantage de reproches ou de regrets que les femmes, ou c'est plutôt assez partagé ?
En fait, oui, c'est totalement différent. Je crois que c'est le premier moment réel d'altérité dans le couple où on prend conscience que on est non seulement face à quelqu'un qui nous est étranger, mais aussi quelqu'un qui est d'un sexe autre que le nôtre. Et finalement, les hommes et les femmes, en général, ne réagissent pas du tout de la même façon. Les femmes sont emmenées dans un truc, dans une reproduction qui les prend, qui les aliène vraiment du début jusqu'à la fin. Leur corps fait les choses sans qu'elles aient besoin d'intervenir. Puis l'allaitement peut prolonger ce moment un peu, je dirais, animal, entre guillemets, qui se fait spontanément. Et toutes leurs sécrétions hormonales sont bouleversées, et puis finalement tout leur chemin de pensée est bouleversé. Et ce qui est aussi très impacté chez la femme, c'est la notion du désir. Le désir n'est plus le même avant et après. Quant à l'homme, lui, il se dit, bon ben voilà, je vis une parenthèse merveilleuse, il est content d'être père, il est content de partager ça, il accompagne comme il peut, mais il espère revenir à l'état initial après, je ne sais quoi d'ailleurs, après, alors que la femme, elle, évolue. C'est-à-dire qu'une fois que la femme est devenue mère, elle n'est plus celle qu'elle était auparavant. C'est une évolution, il n'y a pas de retour, je dirais.
Alors justement, ces questions qui tournent autour de la sexualité, elles sont fréquentes. Cette chute du désir, est-ce que vous avez constaté finalement que c'est quelque chose d'assez inévitable pour un couple devenu couple parental ou simplement sur la durée ?
Ça dépend. Il y a quelques couples qui échappent à ça. Et c'est vraiment, je dirais, une sorte de curiosité. Et c'est très intéressant d'essayer d'interroger ces couples quand ils échappent à cette chute du désir. Mais dans la grande majorité, on s'aperçoit que le désir de la femme est un désir qui évolue avec les périodes que vivent les femmes. Si on réfléchit, les femmes, elles vivent des périodes dans leur vie. Elles vivent l'adolescence, la période où elles vont faire des grossesses, puis après la préménopause et la ménopause. Et dans toutes ces phases, leur désir évolue avec ces phases-là. Dans la période de reproduction, le désir de la femme est très porté par l'idée du géniteur. C'est inconscient, elles ne sont pas en train de manipuler quoi que ce soit, c'est complètement inconscient. Quand elles ont leur quota, je dirais, de maternité, l'homme qui est à leur côté, qui a été le géniteur qu'elles ont tant désiré, ben il faut le réinvestir différemment. Il faut commencer à le désirer dans une autre part, retrouver une forme de féminité. Et de temps en temps, c'est ce moment-là qui est extrêmement difficile. Alors que l'homme, sans vouloir caricaturer, je pourrais dire que de l'âge de 12 ans à l'âge de 80 ans, son désir, il est à peu près le même. Je donne toujours une image qui est un peu choquante, mais bon, le matin, il se réveille avec une érection. Dans le meilleur des cas, le soir, il a fait l'amour, quoi. Voilà, c'est son programme quotidien, je dirais. Mais la femme, ça ne marche pas comme ça. C'est déjà cyclique au sein du mois, donc le désir n'est pas le même. Et en plus, c'est cyclique au sein de sa vie. Donc, c'est un travail. C'est surtout les femmes qui ont un travail pour réinvestir le désir après la naissance d'un enfant.
Alors, cette dimension sexuelle, la dimension relationnelle et affective, avec chez certains hommes, certains pères, le sentiment d'être négligé, voire que le bébé, des fois s'est exprimé comme cela, lui a carrément volé sa place.
C'est ça, mais il n'a pas tort. Il a volé une sorte de priorité dans l'esprit de la mère, ce qui est incroyable. Il faut l'avoir vécu, il faut avoir eu un enfant pour s'en rendre compte vraiment, et c'est mon cas. Au moment où l'enfant naît, chez la femme, mais toutes les pensées passent par la case bébé, mais toutes sans exception. Quand est-ce que je vais prendre ma douche? Comment je prends mon petit déjeuner? Tout passe par la case bébé. Il y a une sorte de... Je dis un tsunami, mais il y a un revirement complet. Donc, il n'a pas tort, le père, quand il a l'impression que l'enfant a pris la priorité qui était la sienne, puisqu'avant, on était extrêmement centré sur ce futur père. Mais c'est pour ça que je dis que les couples ne doivent pas retrouver la complicité d'enfant, mais d'avant plutôt, excusez-moi pour la faute, mais ils doivent refaire quelque chose. Ils doivent construire un nouvel avenir. Et ça, c'est loin d'être impossible. Il y a plein de choses à faire, justement.
On ne veut pas un peu revenir comme avant, mais on veut revenir à autre chose.
À autre chose qui peut être très, très, très enrichissant.
On va passer, docteur Crémer, si vous le voulez bien, tout de suite, aux questions de nos auditrices et de nos auditeurs.
Priorité santé. Sur RFI.
Alors, parents et toujours amoureux, c'est par exemple avoir des problèmes, essayer de retrouver cette séduction, cette relation, ou simplement exprimer que ça se passe plutôt bien après l'arrivée des enfants et expliquer pourquoi, essayer de comprendre pourquoi chez certains ça va et chez d'autres beaucoup moins bien. On va prendre une première question à Kinshasa. C'est Christian qui est en ligne avec nous de la République démocratique du Congo. Bonjour Christian.
Bonjour Madame Caroline, bonjour aux auditeurs de RFI.
Le docteur Crémer est à votre écoute, allez-y.
Oui docteur, merci d'être là, parce que je voulais avoir vraiment une idée parfaite, comment s'en sortir après avoir eu des enfants. Donc pour mon cas, nous avons eu un enfant 9 mois après notre mariage, et le 15 mois qui suivait la naissance de l'aîné, nous avons eu le deuxième enfant, donc c'était au mois de janvier ici passé. C'est vraiment difficile pour nous d'avoir le temps pour nous-mêmes.
Ça veut dire, excusez-moi donc, Christian, vous avez un bébé de 2 mois et puis un autre qui n'a pas encore 2 ans, c'est ça?
Oui, exactement.
Donc deux enfants en bas âge.
Deux enfants en bas âge.
Votre épouse, elle allaite le petit dernier?
Oui, elle allait donc le bébé. Mmh. Et à part l'aîné qui avait cessé d'allaiter lui-même.
D'accord. Alors, dites-nous comment ça se passe aujourd'hui et la question que vous avez à poser au docteur Crémer. Allez-y.
Aujourd'hui, là, nos journées sont vraiment fatigantes. Mmh. Parce que d'abord, de un, il y a cette petite jalousie qui se place chez l'aîné, chez le premier enfant. Et puis, la deuxième chose, c'est que nous n'avons pas le temps de rester nous-mêmes parce qu'à la maison, nous ne sommes que moi et madame, que nous n'avons pas d'autres personnes, baby-sister, comme on les appelle, pour nous aider.
Oui.
Toute la journée, c'est soit c'est moi, soit c'est ma femme qui s'occupe de l'enfant. Et dans la plupart des cas, comme je dois sortir, elle est obligée d'arrêter son travail. Elle reste à la maison avec les deux enfants. Et moi, je dois sortir pour travailler, rentrer le soir. Et quand je rentre, c'est un autre travail qui m'attend, prendre soin des enfants qui sont là, parce qu'elle a aussi besoin du repos, des fois. Il faut qu'elle se repose. Et il faut attendre tard dans la nuit que les deux vont s'endormir. Et là, vous n'avez pas beaucoup de temps pour vous-même. Donc, c'est juste dormir. Et le matin, vous vous réveillez, c'est la routine, vous recommencez la même vie comme hier encore. Donc, comment s'en sortir? Parce que nous, on s'est dit, bon, est-ce qu'il faut attendre quand ils vont grandir, quand ils vont arriver à l'âge de scolarité, c'est alors que nous pouvons avoir le temps pour nous-mêmes, ou bien il y a d'autres stratégies à adopter?
Docteur Crémer, par rapport à ce que dit Christian, ce qu'on peut dire déjà peut-être, c'est que 2 mois, c'était encore un tout petit bébé.
Oui, on peut déjà dire ça. Et puis surtout, on peut dire quelque chose qui me semble essentiel dans l'histoire de Christian, c'est que si j'ai bien compris, ils ont eu un enfant 9 mois après qu'ils se soient mariés. Donc, ils ont eu très peu de temps pour se découvrir tous les deux, pour créer une sorte de bulle d'intimité. L'enfant a débarqué tout de suite, quelque part, dans leur vie. Donc, pour eux, ça a pris énormément de place. Puis le second est arrivé aussi coup sur coup. Donc, ils se retrouvent dans un quotidien extrêmement chargé, extrêmement difficile. Je dirais, c'est presque, si je peux me permettre, le pire des cas, puisque de toute façon, ils n'ont même pas de référence à se faire par rapport à ce que c'était avant. Alors, dans ces cas-là, il a raison, vous avez raison, Christian, quand vous dites que vous allez pouvoir devoir attendre que les enfants grandissent. Par chance, les enfants, ils grandissent et ils grandissent vite. Donc, en effet, dès qu'ils vont être un peu scolarisés, vous allez pouvoir récupérer un peu de temps pour vous. Mais comment on fait en attendant? Je crois que c'est dans ces moments-là qu'on a inventé, vous savez, le concept extrêmement populaire de la sieste crapuleuse. Finalement, le moment où les enfants arrivent à dormir ensemble à cet âge-là, dans le même temps, c'est souvent l'après-midi. Alors, j'entends bien que quand on travaille, c'est pas facile de revenir au moment de la sieste, mais de toute façon, dans la notion d'avoir des enfants, il s'agit de trouver un truc un peu complice, un peu ludique, un espace à soi, et pourquoi pas revenir, je sais pas, décaler son heure de déjeuner, revenir à la maison, profiter gentiment de ce petit quart d'heure-là, ou de cette petite demi-heure-là, ou de cette petite heure-là, et essayer de rétablir une forme de complicité et d'intimité.
C'est-à-dire que même s'il y a une routine, trouver des petits sas, des petits moments d'exception au milieu.
Voilà, recommencer à jouer de son intimité.
Essayez.
Je vous écoute, Christian.
Christian, oui.
Oui, je comprends bien. Comme le cas échéant, d'abord, maintenant, là, c'est... Donc, il faut seulement attendre que les deux dorment. Parce que, déjà, comme l'aîné, il aime bien jouer, et surtout, il aime bien jouer avec son père, avec moi. Mm-hmm. S'il est éveillé, donc, il doit être à côté de papa. Et ça doit être soit c'est le ballon qu'on joue, soit c'est avec ses jouets, on doit être en train de toucher. Et pas vraiment le temps avec sa maman. Et aussi, elle aussi, avec le bébé, elle est plus attachée au bébé qu'au premier enfant et à moi, son mari. C'est voilà un peu une petite crise qui s'est créée encore.
Oui. C'est l'autre aspect, c'est intéressant ce que vous dites, Christian, parce que l'autre aspect, c'est qu'il faut quand même tenir les enfants un peu à distance. Mmh. C'est-à-dire qu'on peut expliquer aux enfants que ce n'est pas le moment de jouer, que ce n'est pas le moment... On peut essayer, vous savez, dans les écoles, maintenant, on instaure ce qu'on appelle des temps calmes, c'est-à-dire des moments où on demande aux enfants de se calmer, de rester dans leur chambre, quitte à s'ennuyer un peu, de, s'ils en ont une en tout cas, ou de patienter... Parce que je crois que l'autre problème, c'est qu'on aime tellement ces enfants qu'on a du mal à leur mettre une petite barrière. Et du coup, qu'est-ce qui paye? Eh ben, c'est le couple, c'est l'intimité, c'est le temps réservé au couple d'amour qui pâtit de ça. Donc ça me a l'air assez typique.
Voilà.
Il jouera au ballon après.
Voilà, essayer d'être un petit peu raisonnable avec cet enfant. Il est adorable, mais avoir du temps pour soi, c'est aussi quelque chose de très, très agréable. Christian, vous souhaite une excellente journée à Kinshasa. On va partir tout de suite pour le Bénin, pour la ville d'Abomey, où nous sommes en ligne avec Gilda. Gilda, bonjour.
Bonjour, Priorité Santé. Bonjour, Caroline.
Allez-y, on vous écoute. Le docteur Kremer est à votre écoute.
D'accord. Bonjour, docteur.
Bonjour.
Bon, oui, bonjour, ma situation... Oui, ma situation, je trouve ça un peu délicat à mon âge. J'ai 28 ans, ma femme a 26 ans. Mmh. On a vécu une relation amoureuse, une relation de 5 ans avant que ma femme ne tombe grosse. Mmh. Et notre premier bébé, il est né, il a environ 20 mois maintenant. Mmh. Ce qui a tout bouleversé dans notre couple, c'est que à la naissance de l'enfant, ça n'a pas été aussi normal que cela devait être. Mmh. On a eu un peu, on a eu à connaître quelques complications. Lors de la naissance de l'enfant, ça a fait que nous avons passé plus de 2 semaines à l'hôpital après la naissance de l'enfant. Mmh. Et ça a fait vraiment un coût financier qui a beaucoup pesé sur nous. Donc, je veux signaler aussi que les 12 premiers mois de l'enfant, c'est tout le temps à l'hôpital. On court à l'urgence, les traitements de l'enfant. Mmh. Il y a par-ci, par-là. Vraiment, cela, sa naissance, on dirait que ça a donné une autre image à notre relation. Et sur ce, nous sommes vraiment au bout du tunnel, disons, parce que les sentiments, la relation, l'affection, tout ce qui nous animait comme vraiment la vraie relation avant la naissance de cet enfant, ça a changé jusqu'à présent. Je vous avoue, par exemple, moi, j'ai perdu complètement le flair, l'amour qu'il faut pour elle. Bon, je me demande si vraiment quel serait le sort à l'avenir, quoi.
Gilda, est-ce que vous êtes inquiet pour la santé de votre bébé? Est-ce que cet enfant va bien? Ou chaque jour, vous levez encore inquiet pour lui?
très, très inquiet parce très que inquiet. Son développement, ce n'est pas normal comme il le faut. Un enfant qui aura bientôt 2 ans, il ne marche pas encore. Nous courons toujours à l'hôpital. On fait déjà toujours des séances de rééducation pour lui. On a des améliorations, mais pas comme cela se doit. On voit les enfants des autres, mais on a tendance à comparer, bien que les enfants ne sont pas de la même, de la même famille, n'ont pas les mêmes histoires. Mais pour nous, ça nous a beaucoup choqué. Ça nous a beaucoup choqué.
Et votre femme aussi, elle est inquiète?
Très, très inquiète. Et puis, c'est elle qui a beaucoup supporté le plus grand poids parce que moi, je suis moins présent, faute professionnelle. Elle est à la maison. Bon. Elle s'occupe bien de l'enfant. Elle a vraiment supporté ça, mais moi, je n'arrive pas à y tenir comme il le faut. Il y a aussi, elle, ses études qui sont là aussi, parce qu'elle va soutenir sa licence bientôt. Elle court pour les études, elle court pour l'enfant aussi. Mais ça fait que ça nous a fait perdre vraiment les sentiments, l'affection que devait avoir notre relation, vraiment l'intimité dans le couple, quoi.
Docteur Fabienne Kremer, on entend ces familles qui se fabriquent. Avec des familles qui vivent des choses plus difficiles que d'autres, puisque il y a les problèmes de santé du bébé, il y a tous ces soucis, plus des soucis d'argent. On peut dire que pour Gildas, le défi est encore plus grand.
Bien entendu, le défi, il est même autre, je dirais, parce que quand on a un enfant qui pose problème, on peut envisager... Alors, il y a plusieurs choses, mais on peut estimer que peut-être ils sont l'un et l'autre un peu déprimés, je dirais, par cette année extrêmement... ou ces 2 années extrêmement difficiles qui viennent de passer. Et justement, le couple, c'est ça aussi. Hein. Le couple, c'est réussir à rester bienveillant l'un avec l'autre, rester soudés, se serrer les coudes dans un moment qui est un moment d'adversité. Cet enfant qui a besoin plus que d'un autre d'attention et de ses parents, mais voilà, il peut prendre une place immense et du coup mettre un peu en décalage d'autres priorités. Parce que j'ai bien entendu ce que vous avez dit, Gildas. Première chose que vous avez dit, c'est que vous avez évoqué votre âge. Vous m'avez dit que vous aviez 28 ans.
Vous êtes jeune.
Peut-être que dans votre tête, de temps en temps, vous vous dites, mais à 28 ans, mais ma vie intime, ma vie sexuelle, mais elle est nulle, quoi. Comment je peux supporter ça? Parce que c'est extrêmement frustrant, bien entendu. Donc, ça, c'est une difficulté à gérer, mais ce serait dommage peut-être, si je peux me permettre, que cette difficulté de la sexualité qui est extrêmement frustrante, contrariée, qui peut générer des colères, qui peut générer des moments difficiles, vous empêche d'être forts tous les deux pour pouvoir affronter la difficulté qui se présente avec votre enfant. Parce que lui aussi, il va grandir. C'est-à-dire que même si aujourd'hui, il a que 2 ans, il va grandir. De toute façon, même les enfants qui ont des problèmes de santé importants, au bout d'un moment, on trouve une sorte d'équilibre. Et donc, vous aurez la possibilité de retrouver cette intimité. Parce que ce qui est très agréable à entendre dans ce que vous dites, Gildas, c'est que vous avez été un couple qui s'est beaucoup aimé, qui a eu beaucoup d'intimité. Donc, je pense qu'il y a quelque chose que vous pouvez retrouver. Simplement, vous vivez une période difficile et vous avez un âge où vous voudriez ne pas avoir peut-être ces soucis-là et vous amuser plus, mais en tout cas en profiter mieux.
Et Gilda, vous êtes reconnaissant à votre femme par rapport à tout ce qu'elle fait par rapport à cet enfant. Vous avez un grand sentiment de reconnaissance par rapport à elle. Gilda, vous êtes avec nous ? Nous n'entendons plus Gilda. Je pense que je ne sais pas si c'est éloigné ou si c'est un problème de connexion. En tout cas, on n'a pas sa réponse. On a bien entendu, docteur Fabienne Kremer, ce que vous venez de dire à Gilda. On va prendre un autre auditeur en ligne, si vous le voulez bien. C'est Aristide. Aristide est à Libreville. Bonjour Aristide.
Bonjour Caroline.
On est à votre écoute. Bonjour. Aristide, alors racontez-nous.
Alors, je voulais juste partager avec tous les auditeurs un peu mon expérience avec mon épouse. J'ai 52 ans, mon épouse en a 48, et on s'est rencontrés dans le fleur de l'âge, j'avais 24 ans et elle avait 20 ans. Et 9 ans, une année après, on a eu notre première fille. Mais l'arrivée de cet enfant n'a pas occulté l'amour, l'attachement qu'on avait au départ. On a su le gérer. En fait, il faut comprendre que l'enfant, c'est vrai. Lorsque l'enfant arrive, toute l'affection, surtout pour la mère, toute l'attention est portée sur cet enfant. Mais nous, on a su le gérer pour faire la part des choses et l'élever jusqu'à ce que on a gardé notre rythme, des temps d'intimité, des sorties, on l'a gardé.
Est-ce que vous étiez fixé les choses avant, en quelque sorte, en disant, eh bien, il y aura ce bébé, mais on va continuer à s'aimer, on va continuer à avoir notre vie à tous les deux, avec le bébé en plus. Est-ce que vous en aviez parlé avant?
Oui. Déjà, l'une des choses, en plus, c'était un enfant qu'on a désiré. Mmh. On l'a tous les deux désiré. Donc, c'est pas, comme on le dit, un enfant qui serait venu par accident, comme ça. Donc, on s'était déjà préparé de ce côté. Hein. Donc, la présence de l'enfant, je dirais plutôt, est venue renforcer cet amour qu'on avait et qu'on a toujours, d'ailleurs, parce que ça ne s'est pas effrité, mon épouse et moi.
Et est-ce que vous avez senti que les choses changeaient, Aristide, avec l'arrivée d'autres enfants, puisque vous avez une assez grande famille?
Oui, nous avions 4 enfants. Mmh. Hein. Donc, la première dont je parle à cette date a 27 ans. Mmh. Donc, vous comprenez que les autres, le tout dernier a 10 ans. Chaque enfant a sa particularité, ses caprices, mais on a toujours su être au-dessus, et même dans l'adolescence de ces enfants, on trouvait toujours, et ça c'est primordial, c'est le dialogue, la communication entre monsieur et madame, la planification, une bonne planification. Faut pas que la présence de l'enfant vienne occulter les temps d'intimité. Il faut toujours les créer, les avoir. C'est important pour un couple. Garder sa
flamme. Docteur Fabienne Kremer, ce qu'on entend avec Aristide, oui, c'est que cette relation, elle est très à la fois amoureuse, mais réfléchie.
Oui, 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 mais alors c'est typiquement ce que je crois que je disais en début d'émission. Aristide, manifestement, c'est un couple qui fait passer son intimité avant le reste. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il existe des couples quand même qui réussissent à garder une intimité. C'est souvent des couples qui ont une sexualité très épanouie d'ailleurs. Enfin, je ne sais pas pour Aristide, mais manifestement, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est des couples qui donnent la priorité à ce couple d'amour et qui ne se laissent pas complètement envahir par les enfants et qui les tiennent à distance. D'ailleurs, quand c'est pas ces couples-là que j'ai en consultation. Des fois, j'ai les enfants de ces couples-là en consultation qui trouvent qu'ils n'ont jamais eu un accès complètement direct à leur père ou à leur mère parce que toujours le couple se mettait en travers de cet accès-là. C'est-à-dire que chaque situation a ses avantages et ses inconvénients. Mais je crois qu'au niveau du couple, en tout cas, réussir à rester collé l'un à l'autre, à mettre les enfants un tout petit peu à distance et à organiser les choses pour garder cette intimité, c'est certainement le secret d'une belle durabilité. Ça, c'est sûr.
Alors, une chose assez rare.
Manifestement, ce qui nous explique.
Une chose assez rare dans Priorité Santé, c'est qu'on a un vrai couple, puisqu'on a Patricia, qui est l'épouse d'Aristide en ligne. Donc, toujours à Libreville.
Pas l'un sans l'autre.
Donc, moi, Patricia, j'imagine que vous êtes d'accord avec, bien sûr, beaucoup de choses qui ont été énoncées par votre époux. Malgré tout, est-ce que vous voyez des différences? Est-ce que, dès le départ, vous aussi, vous aviez en tête d'être épouse et maman? Et qui passe d'abord, l'épouse ou la maman?
Bonjour.
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 Voilà. Je pense que lorsqu'on se met en couple, avant, nous nous sommes rencontrés, ça veut dire que nous étions à deux. Et avant que l'enfant n'arrive, il y a une certaine complicité que nous nous sommes déjà créés. Mmh. Et lorsqu'on se crée cette complicité-là, l'enfant, lorsqu'il arrive, bien entendu, nécessite une certaine attention, parce qu'on ne peut pas dire qu'un nouveau-né qui est là et on va totalement le négliger, non. Mais on s'arrange, on s'accorde. Parce que je crois que la difficulté qu'il y a, c'est que les papas ne s'y préparent pas comme il se doit. Mmh. Mais si les papas se préparent au fait qu'un être arrive et nous devons en prendre soin, je pense que les choses iraient beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que si on s'accorde ainsi, on sait que nous avons quand même une petite période où ce sera un peu difficile parce qu'il faudra jongler. Mais pour jongler, il faudrait qu'on puisse s'accorder et que nous soyons dit, cette période-là, nous nous accordons de jongler, mais on le fait à deux. Mmh. Parce que là, ce que les papas disent, c'est que les mamans sont plus attentionnées sur les enfants et les oublient, Mais les papas n'ont pas compris qu'ils ont également leur part à jouer. Pendant cette période-là, où l'enfant est tout petit, il a besoin de nous, il faudrait que nous fassions un effort. Ça veut dire que nous pouvons des temps d'intimité, de complicité, mais ça, c'est à nous de pouvoir jongler. Parce que l'enfant, lui, il n'a pas demandé à être là.
Donc,
c'est à nous de trouver des temps.
Docteur Kremer, tout à l'heure, disait que parfois, il peut arriver que après certains enfants reprochent un petit peu à ses parents de les avoir un petit peu parfois laissés de côté. Est-ce que ça vous est arrivé, Patricia, avec vos enfants qui disaient hey, « Maman, je suis là, papa d'accord, mais moi d'abord ?»
Non, non. Ils ne s'en sont jamais plaints, puisque nous avons instauré dans nos maisons un certain climat. Nous sommes ouverts avec les enfants, nous sommes dégagés avec les enfants, nous discutons avec eux, nous avons des temps avec nos enfants. Mais nous avons su impliquer à nos enfants dès le départ qu'il y a des temps où papa et maman ont besoin aussi de se mettre à l'écart. C'est important. Et ça, il faudrait que nous puissions le faire quand les enfants sont tout petits.
Et d'où vient...
Mais si nous n'avons pas...
Excusez-moi, je voulais vous demander d'où vient, Patricia, justement, cette conscience, justement, de la relation familiale, finalement, d'être capable de mettre des mots, de mettre autant d'organisation, d'avoir autant réfléchi à sa vie de couple et à sa vie familiale. Ça vient d'où ?
Ben, je pense que, au-delà de ce qu'on ne peut pas... nous avons grandi tous les deux dans des familles vraiment... où dans sa famille, le père était polygame, moi également, mon père était polygame. Et nous avons su tirer de ces familles-là qu'il est important que nous puissions nous investir nous-mêmes dans notre relation. Et ça, dès le départ, nous avons fixé des règles. Pas de polygamie. Et pour qu'il n'y ait pas de polygamie, pour que l'homme n'aille pas chercher d'autre, il faut bien que nous puissions également nous accorder.
C'est-à-dire que d'emblée, Patricia et Aristide, vous aviez un contrat par rapport à ce que vous aviez vécu dans votre jeunesse pour monter votre propre famille avec sa propre organisation. Et ce contrat, bien, non seulement vous l'avez respecté, mais ça a fonctionné.
Effectivement. Ça fonctionne parce que chacun y met du sien.
Docteur Fabienne Kremer, est-ce que vous avez un petit commentaire pour conclure ? Parce que c'est non seulement intéressant, mais c'est même beau ce qu'on vient d'entendre.
Oui, c'est très beau. C'est très beau, c'est très beau et c'est hélas très rare. Vous savez, j'écris dans mon livre que pour moi, il y a quatre piliers qui font qu'un couple fonctionne. Et que je mets sous l'acronyme CARE, qui veut dire le soin. C'est pour ça que je prends soin en anglais. Mais c'est la complicité, le C de complicité, le A de amour, le R de respect et le E de engagement. Et manifestement, c'est cette formule-là qu'ils ont mis en place. C'est-à-dire que dès le départ, ils sont partis sur un projet commun, un engagement commun où chacun à 50-50 était d'accord sur le projet. Ils se respectent mutuellement, c'est-à-dire qu'ils s'entraident. Ils ont un amour manifestement assez infini. Et puis, ils ont une complicité. C'est-à-dire que là, on n'est pas rentré dans l'intimité. Mais moi, je me rends compte en consultation que ce sont des couples aussi qui aiment bien faire l'amour ensemble. Et ça, ce n'est pas toujours gagné, si vous voulez. C'est quelque chose, il y a quelque chose de la magie aussi qui arrive à ce moment-là. Mais ce qu'on peut tirer comme expérience d'Aristide et Patricia et qui est super intéressant, c'est qu'ils ont toujours mis leurs enfants un peu à distance en leur expliquant qu'il y avait un endroit que moi j'appelle un rituel ou une bulle, un endroit où l'enfant n'a pas le droit de pénétrer. C'est-à-dire un moment où les choses ne se passent qu'entre quatre yeux, entre papa et maman. Je trouve que ça, c'est une très très bonne chose à mettre en place, chez tout le monde d'ailleurs, pas que chez eux bien entendu. Mais la formule est belle.
La formule est belle. Docteur Fabienne Kremer, vous restez avec nous. On va entendre tout de suite d'autres expériences puisque nous partons pour le Sénégal.
Priorité santé sur RFI.
Pour vous retrouver, Kaira Thiam, bonjour.
Oui, bonjour madame.
Vous êtes psychologue, psychothérapeute à Dakar. Alors, cette problématique, être parent, être amoureux, est-ce que c'est une question, un sujet que vous rencontrez souvent lors de vos consultations ?
Alors, il y a plusieurs cas de figure, parce que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que je suis psychothérapeute à Dakar. Et que Dakar est une ville très cosmopolite et que je peux passer d'une consultation avec un patient français, américain, chinois, comme sénégalais, et qu'à chaque fois, on est un peu obligé de passer d'un monde à l'autre avec un ensemble de représentations qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Et toutes ces personnes-là partagent aussi le même espace et des fois même sont au Sénégal depuis de très nombreuses années, donc sont assimilées aux Sénégalais, avec les petites variations qu'on peut retrouver au Sénégal dans ces questions de couple, dans ces questions de parentalité et dans ces questions de liens familiaux.
Alors, justement, en consultation, quand les gens viennent vous voir pour parler de leur couple, c'est plutôt en solo ou plutôt, justement, à deux que cela se passe?
Alors, la spécificité de ma consultation, c'est que je consulte beaucoup, en tout cas à Dakar, je suis quand même pas mal connue pour consulter sur les questions de violence sexuelle et violence conjugale. Donc, souvent, je vois les personnes qui vont mal dans leur couple, mais il peut arriver aussi que je sois sollicitée sur de la médiation plus que de la thérapie de couple, avec des couples qui vont pas trop mal, mais qui ont besoin, à un moment donné, de pouvoir rediscuter de leurs liens, de la manière dont ils sont en relation. Et souvent, ce qui se passe, c'est que je reçois des couples mixtes, qui ont besoin de métisser un peu leur point de vue et de faire un travail de co-création de ce couple mixte et d'y tirer un petit peu les bénéfices de cette mixité.
Et par rapport justement à notre problématique du jour, la survenue des enfants, est-ce que les personnes exposent les questions en termes relationnels, en termes amoureux, ou très concrètement sur les problèmes ou les pannes sexuelles que cela pose?
Alors, quand je suis en consultation avec des patients qui sont plus occidentaux, on arrive à parler des questions de sexualité très facilement, assez rapidement. Quand je suis avec des patients qui sont plutôt sénégalais, la question de la sexualité a du mal à se mettre en place, se met en place au bout d'un très long moment, parce que il y a une forme de, comment dire, de pudeur, disons, ou une forme d'interdit presque, je dirais, culturel, de parler de sexualité avec tout et avec n'importe qui, y compris son thérapeute. Donc, ils mettent un peu plus de temps à arriver à cette question-là. Et effectivement, il y a des questions autour de la question, il y a des questions autour du désir, autour du plaisir, autour des fois des défaillances sexuelles qui peuvent arriver, autour de certains inconforts. Autour aussi de certaines pathologies qui peuvent venir troubler la relation amoureuse. J'ai eu à avoir des personnes qui sont venues notamment pour des questions de vaginisme, pour des questions de manque de plaisir, de difficulté à éprouver un certain plaisir, ou même des questions sur l'orgasme, etc. Parce que ils ont un manque d'information, un manque de connexion à leur corps aussi. Donc il y a tout ce travail-là à amener avant même de questionner le lien amoureux. Hein.
Le lien amoureux avec aussi, vous parliez tout à l'heure de l'importance, bien évidemment, du contexte culturel dans la constitution de ces familles. Par rapport aux attitudes éducatives, est-ce qu'il y a des différences? Vous disiez tout à l'heure, toucher un petit peu à tous les milieux, à toutes les origines. Est-ce que vous diriez que l'enfant roi, c'est aussi quelque chose qui nuit particulièrement au couple?
Alors, au Sénégal, vous allez avoir, comme je disais tout à l'heure, plusieurs rapports à l'enfant.
Tout à fait.
Vous allez avoir des enfants, effectivement, qui vont être considérés comme des enfants rois. Il faut rien leur dire, il faut rien leur refuser. Ils sont toujours là, toujours présents, toujours au milieu, sur la scène familiale permanente. Et puis, vous allez avoir aussi un autre modèle éducatif à l'exact opposé, c'est-à-dire que les enfants sont confinés dans leur place d'enfant, avec les enfants, dans leur classe d'âge, et sont très à distance des parents. Il y a quelque chose d'une verticalité qui est très très marquée. Et après, vous avez les entre-deux. Vous avez notamment, par exemple, au Sénégal, des Sénégalais qui ont vécu à l'étranger ou qui ont été imprégnées d'un certain nombre de représentations de la vie de couple ou de la vie parentale par les réseaux sociaux, par les médias, par etc. et qui ont comme idéal de lien, l'idéal soit occidental, mmh. soit aussi oriental. Donc des fois, on a un peu un espèce de mix où on se perd des fois aussi quand on essaye de comprendre le rapport qu'ils peuvent avoir. Donc tout ça, c'est mis au travail quand ils viennent me voir et quand ils ont besoin de me parler de leur rapport à leurs enfants ou de la manière dont ils se rendent compte que dans le choix éducatif il y a une répercussion dans le rapport direct qu'ils ont avec leurs enfants.
Qui nécessite beaucoup d'adaptation, on l'a bien compris. Merci beaucoup, Kaira Thiam. Je rappelle que vous êtes psychologue, psychothérapeute à Dakar au Sénégal.
RFI à Dakar, 92 FM.
On se retrouve pour la dernière partie de cet échange. On arrive à la conclusion. Docteur Fabienne Kremer, ce sujet, justement, on ne l'a pas abordé. La place de l'enfant, le modèle éducatif. On parle parfois des enfants rois, des enfants tyrans. Savoir mettre l'enfant aussi à la bonne place. C'est quelque chose d'assez important dans la relation que l'on souhaite préserver avec l'âme sœur, avec l'être aimé.
Oui, alors c'était très intéressant pour moi d'écouter le témoignage juste avant là de votre psychothérapeute Kaira Thiam, c'est ça ?
Oui.
Parce que moi, vous savez, j'ai une particularité, je ne travaille qu'à distance aussi. Mm-hmm. Je travaille par Skype et donc au total, j'ai des gens un peu dans le monde entier, ce qui me rappelle un peu ça. Donc sa façon de travailler me rappelle un peu la mienne. Et en effet, culturellement, la position de l'enfant, elle est fonction, si on est dans un couple mixte, si on est au Moyen-Orient, si on est en Afrique, en Asie, c'est encore différent, et aux États-Unis, encore différent. Donc, malgré tout, je trouve que moi qui ai une vision un peu transversale des couples à travers le monde, puisque j'ai la chance d'en avoir un peu partout, beaucoup d'expatriés, etc., je peux dire que je crois que le problème du surgissement du premier enfant existe dans toutes les cultures. C'est-à-dire que c'est un problème plus presque animal, je dirais, que psychologique. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose de transformé. Après, la conception qu'on a en effet de l'enfant et de sa place dans la famille, bien entendu, impacte plus ou moins.
Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à notre invitation, docteur Fabienne Kremer. Je rappelle que vous êtes médecin généraliste, psychanalyste. Et merci à l'équipe de France Bleu Provence pour leur accueil. En particulier, Mathieu Ribaud qui a assuré la partie technique de cette transmission. Nutrition santé maintenant dans votre émission avec vous Stéphane Besançon. Stéphane, bonjour.
Bonjour.
Nutritionniste, directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako au Mali. Alors on en entend parler de plus en plus souvent, hein, des probiotiques et on en parle aujourd'hui avec vous. Est-ce qu'ils ont vraiment un intérêt pour la santé ? On commence par la petite définition qui va de soi.
Alors, c'est une notion qui est apparue à la fin du 19e, début du 20e, avec les travaux d'un collaborateur de Pasteur, qui a été prix Nobel de médecine, le docteur Metchnikoff. Mais du coup, il a fallu attendre que 2002, c'est assez surprenant, pour que l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation, la FAO et l'OMS, en donnent une définition, donc je vais vous lire là, qui est un probiotique, un micro-organisme vivant, une bactérie ou une levure, qui, lorsqu'il est ingéré en quantité suffisante, a un effet positif sur la santé de l'hôte, c'est-à-dire de l'homme qui va le manger, au-delà des effets nutritionnels conventionnels. Donc, ce que ça veut dire de manière moins scientifique, ça veut dire qu'une fois qu'on va ingérer ce qu'on appelle des bonnes bactéries, elles vont atteindre le côlon, l'intestin, le côlon, et elles vont venir coloniser cette flore, améliorer le fonctionnement du microbiote, tout en réduisant la présence des micro-organismes qu'on appelle pathogènes, c'est-à-dire, j'allais dire, les mauvais micro-organismes qui, eux, peuvent être source de différentes maladies. Donc ça, c'est le concept vraiment des probiotiques, c'est de se dire, on améliore la flore et on améliore la santé de ce côté-là.
Et Stéphane, ces probiotiques, on les trouve où exactement ?
Alors, déjà, on les trouve naturellement, parce qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup dans les produits industriels ou des compléments, mais on les trouve naturellement dans tous les produits fermentés de fermentation lactique. Alors, les plus connus, ça va être le yaourt, le lait battu et le lait fermenté, qu'on appelle le kéfir. On les retrouve aussi dans plein d'autres produits qui sont issus de cette fermentation lactique. Ça va être la choucroute, le chou qui fermente, ça va être le pain, le vin, la bière ou encore le soja avec le miso qui est la fermentation du soja. Ils sont aussi présents naturellement dans le lait maternel. C'est aussi un des arguments qui dit à un moment il faut allaiter, c'est très important. Et ensuite, on les retrouve aujourd'hui, c'est ce que je disais juste avant, dans les produits industrialisés. Alors, il y en a des très connus, hein. C'est le cas des yaourts au bifidus qui sont enrichis en bifidobactéries, qui sont des bactéries naturellement présentes dans notre flore intestinale. Et on les retrouve aussi dans des compléments alimentaires et des médicaments. Alors, il y en a un qui est un best-seller, j'allais dire que tout le monde connaît, qui est l'ultra-levure, qu'on a tendance à associer à la prise d'antibiotiques et qui, justement, est fait d'une bonne levure, qui est Saccharomyces boulardii, qui va avoir un effet pour aider l'intestin à ne pas être irrité.
Alors la question clé, hein, c'est est-ce que ces probiotiques, finalement, ils sont bons ou mauvais pour la santé ?
Alors aujourd'hui, déjà, le débat, il est sur deux points vraiment. Il est, est-ce qu'ils fonctionnent réellement ? Chose qui n'est pas encore très très claire totalement. Et est-ce qu'ils pourraient être nuisibles ou pas ? Qui est un débat d'ailleurs qui est peu, il y a peu de choses là-dessus, il y a peu de publications. Donc il y a eu beaucoup d'études maintenant, il y a plus de recul. Il y a trois effets principaux positifs qui reviennent, qui sont vraiment sur le tractus intestinal, la digestion et tout cette question-là. C'est l'atténuation ou la prévention de la diarrhée. Alors les différentes diarrhées, que ce soit celle du voyageur, la tourista, que ce soit celle qui est liée à la prise d'antibiotiques, on parlait de l'ultra-levure tout à l'heure, ou alors la diarrhée de l'enfant. L'atténuation, alors je dis bien atténuation, c'est pas un médicament, des symptômes dans le syndrome de l'intestin irritable, ou aussi le soulagement, là aussi on est dans l'atténuation des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Alors pour les autres bénéfices, que si vous tapez sur Internet, vous allez en trouver des tonnes, eczéma, allergie, et ça. Là, pour le moment, il n'y a pas réellement d'études qui montrent qu'il y a un effet vraiment concordant. Et le dernier qui revient beaucoup actuellement, c'est la question du renforcement du système immunitaire, alors avec plein en plus d'effets positifs derrière ça. Aujourd'hui, là aussi, il y a des recherches, il y a des choses, mais il n'y a rien de publié qui dise vraiment que les probiotiques ont un effet sur le renforcement du système immunitaire.
Alors, pour revenir justement, Stéphane, à ces risques potentiels, hein, des hypothèses, est-ce qu'il y a des travaux scientifiques qui montrent justement que certaines craintes existent, certaines craintes associées à la consommation de ces produits ?
Alors, il y a effectivement une étude récente qui est parue dans le JAMA, qui est un journal américain médical assez connu, qui s'est intéressé à cette perspective. Et il y en a très peu. Et dans la conclusion de cet article, il cite trois choses alors qu'il est, sur lesquelles il y a des attention, on va dire. Il n'y a pas non plus, c'est pas catastrophique, mais ils disent faire attention. La première, c'est la sécurité liée à ces bactéries dans ces suppléments, qui n'est pas toujours très bien étudiée, à savoir est-ce que c'est totalement safe ou pas. Ils peuvent entraîner, bah forcément, c'est un organisme qu'on introduit vivant, donc des infections, des réactions chez certaines personnes. Et enfin, ça, je pense que c'est pas le plus inquiétant, mais c'est la question pour beaucoup aujourd'hui de produits qui ne sont pas des médicaments, mais des compléments, c'est que le fait qu'ils ne soient pas classés dans les médicaments, sur le mode de production, sur le mode d'autorisation, il y a moins de réglementation. Et ça, ça peut être une inquiétude aussi sur est-ce que c'est bien produit, la pureté, la composition, etc. Mais ça, ce n'est pas que pour les probiotiques, c'est pour tous les produits parasanté qui émergent aujourd'hui, où la réglementation est en cours de s'adapter dans beaucoup, beaucoup de pays. Donc, c'est les trois craintes qu'il y a aujourd'hui autour des probiotiques.
Alors, justement, en fonction de tout ça, est-ce que vous pouvez nous donner quelques conseils, des recommandations ?
Alors moi, je dirais que les informations aujourd'hui qui sont disponibles pour les professionnels, à la fois sur les doses, sur les types de bénéfices et ça, sont quand même relativement faibles. Et quand on discute avec beaucoup de professionnels de santé, ils disent que c'est quand même compliqué pour eux d'en prescrire vraiment de manière un peu sur une prescription médicale. Et sur le bénéfice réel, alors à part les choses très connues comme l'ultra-levure, comme les choses intestinales où là, il y a un bénéfice, sur le reste, il faut rester très prudent et on n'a pas encore vraiment de faisceau pour dire que la consommation a des effets très positifs. En plus, on sait que comme c'est une supplémentation qui doit être permanente, dès qu'on arrête, l'effet s'arrête parce qu'il faut recoloniser à chaque fois la flore. Donc moi, je dirais qu'il faut plutôt diversifier son alimentation plutôt qu'aller chercher des compléments. Bah, aller les chercher là où ils sont présents naturellement, c'est-à-dire bah, en priorité, consommer régulièrement des aliments qui en contiennent. Ça va être bah, par exemple les yaourts, les laits fermentés ou des choses comme ça qui vont permettre un apport en plus si on en consomme régulier, qu'il n'y ait pas de rupture de l'apport et qui vont permettre une diversification de l'alimentation et aussi des économies parce que souvent ces compléments coûtent très très cher.
Merci beaucoup Stéphane Besançon et à très bientôt dans Priorité Santé. Je rappelle que vous êtes nutritionniste et directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako au Mali. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique, réalise votre émission. Demain dans Priorité Santé, on va parler des maladies rares, dépistage, prise en charge, recherche, traitement. À demain et d'ici là, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Sunwa Assurance qui vous accompagne où que vous soyez au Cameroun et dans ses 14 pays de présence. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Sunwa Assurance, notre métier, l'assurance.